Place Info.
Bonsoir à tous. Google va devenir une banque dans quelques mois. Le géant américain proposera des comptes courants comme Apple, comme Facebook. Google veut se développer dans la finance et dans beaucoup, beaucoup d'autres domaines. Bonsoir Diana Filipova.
Bonsoir Jean.
Vous êtes une des pionnières de l'économie collaborative. En France, c'est comme ça qu'on appelait ce secteur un peu disparu. On va peut-être en parler. Vous avez aussi travaillé pour Microsoft. Vous avez fait de la politique engagée à gauche. Et vous dénoncez le pouvoir grandissant de ces entreprises technologiques. Vous publiez Technopouvoir aux éditions Les Liens qui Libèrent. Si on prend l'exemple de Google et de cette toute dernière annonce, qu'est-ce que ça signifie? Que cherche Google en devenant peu ou prou une banque?
Il y a effectivement ces dernières années une prise de conscience accrue de la place du public, de la part du public face au pouvoir grandissant des géants technologiques. Mais ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que ce n'est pas nouveau, puisque dès la naissance de la société industrielle et des technologies qui y sont associées, à savoir les extractions des matières premières, la technologie a toujours été profondément politique et a influencé les modes d'exercice du pouvoir. Un exemple, au début du XXe siècle, l'automobile par exemple, a eu une influence majeure sur la structuration urbaine des villes américaine. Elle a permis le développement du crédit à la consommation. Elle a complètement refaçonné, restructuré les modes de vie. Donc, le pouvoir de la technologie est lié à la technologie depuis son développement au début du 19e siècle.
Mais à quoi assistons-nous là? J'ai pris l'exemple de Google qui veut faire véritablement de la banque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là?
Alors, il y a de particulier à ce que ça devient de plus en plus rapide et de plus en plus visible. Et par ailleurs, Google ne peut plus se cacher et se dissimuler comme c'était peut-être le cas avant. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a une collaboration aussi accrue entre à la fois les géants technologiques et les États et les entreprises également autour de ces nouvelles technologies. Puisque, par exemple, que ce soit Google ou surtout Amazon ou d'autres entreprises, d'autres géants, ils collaborent activement avec les États pour surveiller, pour contrôler la population. Donc, il y a tout un système.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être plus précise là-dessus? Parce que c'est lourd de sens ce que vous dites.
Alors, Microsoft vient de remporter, par exemple, un contrat de 10 milliards avec la défense américaine.
Microsoft, l'entreprise pour laquelle vous travaillez il n'y a pas si longtemps.
Je travaillais autrefois, tout à fait. Je m'occupais des startups chez Microsoft. Facebook connaît absolument tout sur nous. Amazon développe de plus en plus ses activités avec la défense américaine. Et de toute façon, Internet et l'informatique sont tributaires de très lourds investissements qui ont été effectués à l'époque par le département de défense américaine. Donc, les technologies que nous utilisons aujourd'hui sont des produits militaires, sont des produits de la guerre froide, d'une guerre géostratégique entre les deux blocs. Donc les considérer pendant très longtemps comme on l'a fait, comme étant des vecteurs d'émancipation, était une façon finalement d'effacer d'un revers de la main l'histoire de développement de ces technologies-là.
C'est une des phases de cette histoire, Diana Filipova, mais il y a aussi beaucoup plus concrètement ce que les utilisateurs vivent, c'est-à-dire une amélioration des services dans leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse de finances, on en parlait, qu'il s'agisse de mobilité, ça existe ça aussi.
Bien sûr, moi je suis pas du tout, j'essaie pas du tout d'être technophobe, de prouver que la technologie est mauvaise ou quoi que ce soit. En revanche, il faut comprendre ce qu'elle nous fait par ailleurs. C'est-à-dire, ces nouveaux services, ces nouvelles libertés, ces nouveaux droits, ils ont un coût et un prix qu'on ne voit pas souvent. Ce que j'essaye aussi de montrer, c'est qu'il y a deux façons pour la technologie d'agir. La première, c'est de façonner notre environnement de telle manière à ce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Quand on tient un objet comme le smartphone dans la main, il y a toute une chaîne de valeur derrière qui va de cet objet-là jusqu'à l'extraction des terres rares et des métaux rares qui vont servir à la construction de ce téléphone et qui en fait sont absolument invisibles aux consommateurs. Donc il y a un environnement, notamment par exemple sur l'économie de l'attention, lorsque nous sommes sollicités dans un service grâce notamment à tout ce qui est ad tech, la technologie de la publicité, notre attention en fait elle a un prix et on ne le voit pas. Donc structuration de l'environnement et volonté de réinventer un homme, une sorte de type anthropologique qui soit un peu différent puisque notamment par exemple les plateformes aujourd'hui qui font de la livraison et qui proposent des nouveaux services, elles vont complètement transformer le monde de travail, elles vont introduire une nouvelle façon de travailler qui se fait complètement à l'abri du droit du travail. Et cette façon d'inventer un nouveau travailleur, de naturaliser un travailleur plus flexible, plus malléable, qui n'a aucun droit, c'est une façon aussi de réinventer tout un monde sans qu'on s'en rende compte.
La question, c'est c'est celle de notre adhésion à ces changements-là. Qu'est-ce qui nous empêche de faire autrement? Après tout, on n'est pas obligé chez un de ces géants, c'est pas facile à dire, d'utiliser les services financiers, d'utiliser les services de santé, d'utiliser les services de mobilité. Qu'est-ce qui empêche le citoyen et le consommateur d'être libre,
Diana Filippola? C'est tout l'objet de cette dépolitisation qui est dans le titre de mon ouvrage, qui intervient depuis déjà plusieurs dizaines d'années. C'est que nous n'avons plus tellement le choix, ni plus tellement l'envie, puisque nous sommes conditionnés aussi pour cueillir le fruit des meilleurs services, d'une plus grande facilité d'utilisation, et aussi parce que la technologie a tendance à nous séparer, à introduire une distance entre nous en tant qu'humains, quoi, à casser les institutions et les voies de rassemblement politiques traditionnelles. Donc nous avons tendance en fait à assez rapidement nous laisser acheter souvent par ce qu'on nous propose.
Est-ce que vous ne sous-estimez pas les pouvoirs, encore une fois, du citoyen, de l'utilisateur, tout simplement?
Pas du tout.
Est-ce qu'on n'est pas à même de faire le tri entre tout ça?
Individuellement, peut-être, mais ce n'est pas individuellement que nous allons réussir à reprendre le pouvoir sur les technologies et à réinventer de nouvelles trajectoires. En fait, c'est une tâche profondément politique et qui dépasse largement la question technologique. C'est celle d'inventer de nouveaux modèles de société dans lesquels, une fois qu'on les invente, des nouveaux modèles technologiques plus démocratiques, plus distribués, beaucoup plus transparents.
Mais dans l'immédiat, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le démantèlement de ces géants de la Silicon Valley? C'est un des débats en ce moment aux États-Unis, notamment chez les démocrates. Vous êtes par exemple?
Le démantèlement des géants technologiques ne changera absolument rien à l'infrastructure technologique qui les accompagne. Elle ne va pas supprimer les serveurs qui sont aujourd'hui majoritairement situés aux États-Unis et qui donnent aux États-Unis une position géostratégique et politique absolument démesurée par rapport au reste du monde. Donc, c'est aussi le cas avec la Chine. Quand bien même on démantèle Google, on ne va pas réussir à démanteler les géants chinois. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on n'est pas en position à résoudre cette question de façon simple.
Diana Filippova, votre livre « Technopouvoir dépolitisé pour mieux régner ». Le livre paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci à vous.
Merci Jean.